Bon, 7h17, quand on vend sa maison personnelle, on ne paie pas d'impôt sur le gain en capital, mais si on vend un immeuble, un chalet, là, on va en payer.
Exactement. Et pas les auditeurs étant à l'argent, tu comprends? M'écrivent souvent pour me dire « Salut Pierre-Yves, j'ai vendu ma maison 478 000, je l'ai payé 115 000 en temps d'année, j'ai fait tant de travaux, nanana, j'ai deux chalets, un immeuble à revenus, combien je vais payer d'impôts? » Évidemment, ce sont des services professionnels et bien que je suis bien sympathique, je ne suis ni gratuit, ni apte à prendre un risque professionnel sans rémunération. Alors, ce sera dit, un peu comme quand votre plombier vous fait pas un pitrap gratuit par Internet. Alors, quand on revient à la fiscalité, la première question à se poser, c'est comme tu le dis, Paul, est-ce que tu peux utiliser ton exemption pour gain capital sur résidence principale? Si tu as une maison, tu as vendu, tu l'as habité, c'est pas vraiment un problème. L'impôt ne te dérangera pas vraiment. Mais si tu as une maison et un chalet, là, tu vas devoir en désigner une des deux par année comme résidence principale et là, tu vas pouvoir faire un calcul d'impôt. L'autre question, c'est que si vous vendez un immeuble à revenus, il y a toujours un petit côté cheap en nous qui, chaque année, on cherche à minimiser nos impôts. Donc, ce qu'on fait, c'est quand un immeuble à revenus, ça arrive qu'on veuille l'amortir, c'est-à-dire qu'on déduit 4% du coût fiscal de l'immeuble tranquillement, pas vite, à chaque année. Là, tu ne payes pas d'impôts chaque année. Par contre, quand tu revends ton immeuble à profit, le gouvernement dit « Écoute, tu as passé une partie de ton immeuble en déduction parce que dans le fond, tu disais implicitement qu'il s'usait et qu'il perdait de la valeur. Et donc, quand il reprend sa valeur à la revente, tu vas t'imposer sur ce que tu as déduit à 100%. » Bon, Paul, je vais mettre ça en français. Tu ne seras pas imposé comme du gain en capital seulement à 50%, mais bien à 100%. Donc, si tu fais 100 000 de récupération d'amortissement et que tu t'imposes là-dessus, ben, tu vas payer beaucoup d'impôts, peut-être 50, 53 dépendant de ton revenu. L'autre point intéressant, c'est de se demander, quand tu as fait des rénovations dans ton immeuble, t'étais-tu cheap ou tu pensais long terme? Si tu étais cheap, tu essayais de tout passer à dépense pour avoir le moins d'impôts annuels à payer. Mais quand tu arrives à la fin, que tu avais payé ton immeuble 300 000 il y a 20 ans, mais que tu avais mis 200 000 en rénovation, mais que tu ne l'avais pas ajouté à ton coût parce que tu as dit « ça n'améliorait pas l'immeuble, ça faisait juste maintenir sa valeur », bien, quand tu arrives à la revente, tu n'as pas augmenté ton coût fiscal et donc ton gain est plus grand. Puis pour mettre ça dans un calcul rapide, dites-vous que sur du gain, par tranche de 100 000, vous pouvez payer au maximum 26 665 d'impôt. Et si c'est de la récupération d'amortissement parce que vous avez amorti, c'est à peu près 53 310 que vous allez payer par tranche de 100 000 de récupération d'amortissement. En français.
Oui, en français, c'est ce que j'allais ajouter.
Oui, parce que c'est complexe pour rien. Allez voir votre comptable. Vous allez payer de l'impôt. Il n'y a rien de gratuit.
Parfait. Non, mais ça, c'est sûr, mais
mais en somme, tu payes entre 26 et 53 d'impôt sur ton gain de valeur, dépendant de ce qui t'est arrivé, si on oublie le fait que la portion que tu as habitée est exemptée d'impôt si tu en fais le choix.
Okay.
Mais en somme, ne pensez pas vendre un immeuble 1 million, vous avez payé 400 000, puis avoir 15 604 d'impôt. Ça n'arrivera pas.
Parfait, parfait, parfait. Là, tu veux me parler de financement créatif.
Oui, parce que là, dans le journal...
Qu'est-ce que c'est que du financement créatif?
Ben, ça, c'est tous les gens qui utilisent le terme très, très galvaudé de créativité. C'est-à-dire, quand tu ne fais pas affaire avec les prêteurs conventionnels, comme on parle normalement dans la vie, on dit « Ah, faut être créatif ». Alors, c'est un grand terme qui englobe tous les gens qui prennent un autre type de financement. Et pourquoi je t'en parle ce matin? Parce que la presse revient encore sur le fameux cas de cet propriétaire immobilier qui a plusieurs portes, mais qui utilise des stratagèmes. Et dans les blogs, les conférences, les forums sur l'immobilier, on parle beaucoup de créativité de financement. Faut que tu penses à l'extérieur de la boîte. Ce qui veut dire, par exemple, si tu n'as pas la mise de fonds pour un immeuble, va te chercher un prêteur privé. Hein? Lui va te prêter la mise de fonds. Là, tu vas augmenter la valeur de ta maison. 2-3 ans, tu refinances tout ça, tu rembourses ton prêteur privé, puis tout est beau. Ça, c'est ce qu'on vend. Dans la réalité, c'est plus complexe que ça. Et ce que je voulais parler ce matin, c'est quand tu arrives à ton institution financière, puis tu lui dis « je t'emprunte 400 000, puis j'ai 100 000 de mise de fonds », bien, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Si le 100 000 est emprunté à un prêteur privé ou à une personne et que vous ne le déclarez pas, vous faites une fausse déclaration. Et c'est aussi négatif ou nocif que de dire à la banque « je gagne 200 000 par année alors que c'est 58 000 ». C'est une fausse déclaration et ça pourrait vous revenir d'en face s'il y a problème. Et dans le cas de Mme Cauchefer, le problème, c'est qu'évidemment son stratagème a été dévoilé. Et puis là, Desjardins dit « écoutez, on va faire des vérifications là, parce qu'une seule personne, s'il est impliqué dans un système de prête-nom non déclaré à la base, ben on pourrait y annuler son financement ». Et donc, quand on vous vend de la magie, puis qu'on vous dit « Hey, la gang, faites-vous-en pas, faites affaire avec un prêteur privé », mais il y a deux choses qu'il faut avoir peur. Un, c'est que la banque découvre que vous n'avez pas tout déclaré. Et de deux, et ce qui est assez important, les conditions des prêteurs privés sont pas toujours sympathiques. Par exemple, parfois, ils vous saisissent une partie de votre immeuble si vous ne payez pas. D'autres fois, les taux d'intérêt chargés sont élevés parce que c'est du prêt privé, c'est risqué. Alors, dites-vous que si c'était si simple de faire affaire avec un prêteur privé puis de voir ton immeuble monter de 20-30% en un an, puis de tout refinancer ça, puis tout était beau, tout le monde ferait ça. La réalité, c'est qu'il y a un monde de requins derrière ça. Il y a des gens qui veulent être votre ami pour le financement.
Mais habituellement, quand tu es rendu au financement privé, c'est que tu t'es fait fermer la porte ailleurs. Là.
Oui, ou que tu es rendu, ce qu'on appelle en bon français, très leveragé. C'est-à-dire que oui. Tu t'es beaucoup, beaucoup endetté, mais tu as l'ambition plus grande que la pense et tu veux encore acheter, mais tu n'as pas les liquidités qu'il faut. Alors, tu vas voir un ami ou un prêteur privé qui, lui, te fait confiance et là, tu vas investir encore. Mais regardez le dossier. C'est le cas d'une dame. Hein? Une dame qui semble une façade d'un gros système immobilier. Mais elle n'est pas tout seule dans ce monde-là. Alors, dans les conférences, faites attention entre le rêve et la réalité bien plate d'un tuyau qui coule.
Merci, monsieur. Salut. 7h24, la 15.